que l'on partage ensemble quelques passages sur le repos, sur la paix. Il y a quelques mois, je suis allé à une réunion tenue par une association d'Aubagne. Alors, je pense, plus sûr de son appellation, je crois que c'est Stop Bruit, je crois. Et en fait, ils avaient montré une carte où beaucoup d'endroits de la ville étaient en noir à cause du bruit des autoroutes. Alors, ils militent, ils rencontrent des élus pour changer d'enrobage, mettre parfois des murs anti-bruit. Et c'est vrai qu'on est quand même, au-delà de notre ville, dans un siècle bruyant, dans un siècle agité, où parfois on peut être fatigué. Hein? Le bruit au travail, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Hein, si vous mettez vos EPI, vous êtes moins fatigué à la fin de la journée si vous travaillez dans un endroit bruyant. Certainement que nous avons besoin d'un peu de bruit, de ne pas être seul au monde, perdu au milieu de nulle part, mais on a quand même besoin de repos, surtout dans notre génération. La vie chrétienne est une vie reposante. Amen. Avant d'être chrétien, ça j'allais pas bien. Mais quand on s'est tourné vers le Seigneur, on a trouvé le repos. L'Église, ce doit être une maison de repos, une maison de paix, un lieu de grâce. Alléluia. Jésus est appelé le prince de la paix. Amen. Et dans la Bible, il y a même, dès le départ, cette pensée du repos qui se transformera en sabbat. Et on va lire quelques textes à ce propos. Vous voulez bien ouvrir avec moi dans l'Ancien Testament le livre de l'Exode, au chapitre 20, verset 8. Exode, chapitre 20, verset 8. Le chapitre 20 du livre de l'Exode, c'est là où il y a les 10 commandements que Dieu lui-même a inscrits de sa main, de son doigt. Il y a des parties de la Bible qui nous viennent directement de Dieu. Alléluia. Exode chapitre 20, verset 8. Voilà ce qui est dit. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton travail, tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Et voilà l'origine du sabbat, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour spécial, c'est ça que ça veut dire, et l'a sanctifié. Un jour très spécial, un jour consacré, un jour sacré, un jour sanctifié, pardon. Alors, la première chose que l'on peut dire, si Dieu s'est reposé, qui sommes-nous pour ne pas le faire ? Nous avons, bien plus que lui qui ne sommeille ni ne dort, besoin de nous arrêter. Dieu a fait en 6 jours tout ce que nous voyons, mais au bout du 6e jour, il s'est arrêté. Il a su se reposer et il l'a fait surtout comme exemple pour instituer même plus tard dans sa loi cette journée du sabbat qui avait lieu le samedi. Nous sommes tentés de ne jamais nous arrêter. Si vous aviez des jours de 48 heures, pensez-vous que vous en garderiez 24 de côté? À mon avis, les 48 heures se rempliraient très rapidement de diverses activités. Et Dieu dit, tu feras ton travail en 6 jours, point. Et le 7e jour, tu te reposeras. Toujours courir, toujours travailler, toujours s'affairer, ce n'est pas le sens du salut chrétien. Et puis ici, il est dit, ce sera aussi l'occasion que les autres se reposent. La servante, le serviteur, les enfants, même d'autres passages, les animaux. Vous savez, quand on est trop actif, trop dynamique, non seulement parfois sans de même qu'on puisse s'en rendre compte, on se fatigue soi, mais on fatigue aussi les autres. Parce qu'il faut que les autres marchent à notre rythme. Il faut toujours faire quelque chose. Mais dans le couple, si votre mari ou si votre épouse a des fois besoin de s'asseoir et de ne rien faire, il a le droit. Elle a le droit. Et on ne se rend pas compte que parfois, si on se refuse le repos, peut même y avoir des tensions dans la famille, de l'énervement à cause d'accumulé, parce que même si parfois nous voulons jouer les Superman, en fait, il n'y a aucun parmi nous qui est un super. On a tous nos limites et on arrive à continuer à faire, mais on s'énerve. On énerve l'autre, on se dispute, les enfants prennent au passage. Parce qu'il faut que tout aille à notre rythme. Ah, peut-être que vous êtes dynamique, dès que vous posez le pied à terre, ça y est, la pile électrique est en route. Mais tout le monde n'est pas une pile électrique. Et est-ce que c'est même bon d'être toujours survolté, pour continuer dans l'image de la pile électrique ? Survolté. Il faut savoir s'arrêter. Le sabbat, c'était aussi dire à Israël, il y a des limites, tu dois vivre pour Dieu. Tu ne dois pas vivre pour tes affaires. Tu ne dois pas vivre pour tous tes projets, tout ce que tu as envie de faire. Tu dois vivre pour ton Dieu. Alléluia. Parce que c'est bien beau de courir à droite et à gauche, mais au final, on peut prendre le risque à la fin de sa vie de se rendre compte qu'on est passé à côté de l'essentiel. Chapitre 34 du même livre, on pourrait lire un verset s'il vous plaît. Chapitre 34, verset 21. On en arrive même des fois où on se culpabilise de ne pas faire quelque chose. Là, je pense qu'il y a un excès. Chapitre 34, verset 21. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. C'est même quand il y a du boulot, mais alors à craquer. On a toujours de bonnes raisons de ne pas s'arrêter. Mais l'Écriture, prévoyant ce que nous sommes, dit, même quand c'est la moisson, même quand il faut labourer, même quand le planning il est plein à craquer, même là, le samedi, plutôt le vendredi soir, tu arrêtes tout. Et jusqu'au samedi soir, c'est repos. Gloire à Dieu. J'ai connu un frère qui était artisan et qui avait beaucoup de travail, mais à chaque jour de réunion, à une certaine heure, je pense que c'était au moins une heure avant le début de la réunion, il posait son auge, sa truelle, il arrêtait, il rentrait à la maison, il se lavait, il s'habillait et il venait à la maison de Dieu. Alléluia. Bon, il gérait son temps, il pouvait le faire, tout le monde ne peut pas le faire, mais je veux dire, quand même, c'est un exemple de savoir se dire à un moment donné, j'ai vécu assez pour moi ou pour ma famille, maintenant, c'est pour Dieu. Alléluia. Il y a des choses sanctifiées, il y a des choses consacrées. Je vous encourage à sanctifier ce repos. Et cela a beaucoup d'applications dans la vie chrétienne, entre autres, de venir au rendez-vous des réunions de l'Église. C'est une façon chrétienne de vivre l'esprit du sabbat et dans ce repos pour rendre à Dieu ce que nous lui devons. Dans le chapitre 23 de ce livre, on peut lire versets 10 à 12 et vous verrez qu'il n'y avait pas seulement qu'une journée sabbatique. Exode chapitre 23, verset 10. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre, tu en recueilleras le produit, mais la 7e année, tu lui donneras du relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Amen. 1 année sur 7 de congé, c'est pas mal. Je ne sais pas si notre gouvernement actuel accepterait une telle proposition. 1 année sur 7, il fallait s'arrêter toute l'année. Pas avoir le même rythme de travail, il ne s'arrêtait pas vraiment complètement, évidemment. Et il vivait. Et de ce qui était produit, il devait aussi encore recueillir ce qui était produit. Mais il ne devait pas avoir ce travail particulier de labeur et de moisson, mais il vivait de ce qui était, de ce qui poussait. Quel exemple. On peut toujours travailler et amasser de l'argent, amasser du blé, amasser des récoltes. On peut toujours aller dans ce sens-là, mais la loi de Dieu nous montre quand même que le Dieu qui travaille, le Dieu qui est plein de courage dans tout ce qu'il fait chaque jour. C'est le Dieu qui a voulu que son peuple sache se reposer. Et parfois, ici, toute une année. 1 année sabbatique sur 7, ça fait beaucoup. Ce repos-là, nous ne le trouvons qu'en Jésus. On peut le lire dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, s'il vous plaît. Matthieu 11, versets 28 et 29. Le repos de la loi, en fait, Moïse, ni Josué, dit l'Épître aux Hébreux d'ailleurs, n'a pu le donner. C'est seulement Jésus-Christ qui peut donner le repos de nos âmes. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Quelle différence d'avec les pharisiens que Jésus dénonçait et qu'il disait qu'il liait de pesants fardeaux et les accablait les gens de ce fardeau. Et lui dit, mon fardeau, il est léger. Mon joug, il est doux. On n'est pas fait dans la vie pour ne rien porter. On n'est pas fait dans la vie pour ne rien faire. On n'est pas fait dans la vie pour ne pas se soumettre, pour ne pas obéir. Il est important d'obéir à Dieu. Il est important de porter des fardeaux dans la vie. Mais, pas des fardeaux démesurés. Mais le fardeau léger, le joug agréable du Seigneur Jésus. Comment est-ce que cela est possible? Quand Dieu s'est reposé, il s'est reposé parce qu'il avait tout terminé. Et que la création qu'il avait faite pouvait fonctionner. Il a toujours été là, il l'est encore, pour donner la vie à cette création, pour agir. Mais il a quand même donné une certaine autonomie à la création, qui peut fonctionner grâce au cycle que Dieu a institué. Ben de même, le repos en Jésus-Christ, pourquoi on peut se reposer? Bien parce que comme Dieu avait tout bien fait pour la terre et les cieux, Jésus-Christ a tout bien fait pour nous sauver. Sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'est pour cela qu'il peut nous donner du repos, parce qu'on n'a plus besoin de faire des choses énormes pour que nous soyons sauvés. Il nous suffit simplement de croire et d'accepter que seul Jésus-Christ était sans péché et pouvait donner sa vie en sacrifice pour sauver nos âmes. Et que même maintenant, nous chrétiens, ce n'est pas nous, par nos forces personnelles, que nous pourrons obéir à Dieu, devenir meilleurs. Non, c'est seulement parce que Jésus-Christ est ressuscité et que c'est lui qui fait cette œuvre dans nos vies. Quel repos! Que notre vie chrétienne ne dépende pas de nous, mais de lui. Avant d'être converti, on se débrouillait dans la vie et on s'activait parce que si on ne se débrouillait pas dans la vie, personne ne nous aurait aidés. Et il fallait assumer. Mais maintenant, nous savons que le Seigneur prend soin de nous. Alléluia. Qu'il s'occupe de nous. On peut se reposer sur lui. Et même quand on est dans des moments difficiles dans la vie chrétienne où on a un problème avec un péché, quand on est dans des moments de défaillance, son amour dure à toujours. Alléluia. Si c'est répété beaucoup de fois dans la Bible que l'amour de Dieu dure à toujours, c'est pour nous dire qu'on peut se reposer sur sa fidélité. On peut s'appuyer. À un moment donné, l'apôtre Paul dit, celui qui a commencé en vous, achèvera cette œuvre. Vous savez, le Seigneur, il nous a commencé à nous sauver. Quand il nous a sauvés, on était bien, on était en bon état. Peut-être vous, mais moi vraiment pas. Et ce que je sais, c'est que quand il est venu me chercher, il a décidé qu'il me ferait progresser jusqu'à l'accomplissement. Il est le chef et le consommateur de notre foi, l'initiateur et le développeur, entre guillemets, de la foi. Amen. Alors, nous pouvons lui faire confiance et nous reposer sur lui. Amen. La loi de Moïse ne nous est pas donnée pour qu'on réussisse à être meilleur par elle. Paul l'a souvent répété dans les Épîtres, la loi de Moïse, elle a été donnée pour prouver qu'on est mauvais. La loi de Moïse a été donnée pour faire augmenter la connaissance du péché. Mais la loi ne nous délivrera jamais du péché. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Un ancien cantique disait, Jésus, tu m'as libéré du fardeau de la loi. Amen. Ne vous remettez pas sous ce fardeau. En vous condamnant parce que vous n'avez pas réussi des règles, des objectifs, même des choses qui sont bonnes et qui plaisent à Dieu. Ne vivez pas sous la loi. Vivez en Jésus-Christ. Et en vivant en Jésus-Christ, lui fera même tout ce que la loi, dans sa justice, préconise. Pas forcément dans sa lettre, mais dans sa justice. Qu'est-ce que c'est que la justice de la loi plutôt que la lettre? Jésus, dans le sermon sur la montagne, dit, par exemple, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et dis-moi, je vous dis, la convoitise, c'est déjà un adultère dans le cœur. Donc, Jésus explique la loi, ne contredit pas la loi, mais il nous montre au fond, qu'il n'y a que lui qui peut changer nos cœurs. Amen. L'apôtre Paul disait irréprochable quant à la justice de la loi dans la forme, parce qu'en même temps, il était un meurtrier quand même. Incroyable, hein? Vous savez, mal comprendre la loi, c'est devenir orgueilleux. Quand le jeune homme riche est venu vers Jésus, Jésus dit, fais la loi. Et il dit, mais je fais la loi. Et là, le Seigneur, il comprend que le jeune homme riche n'a pas compris la loi. La loi ne nous est pas donnée pour qu'on soit fiers de nous. La loi nous est donnée pour qu'on soit humiliés par elle, pour qu'elle nous amène à Jésus-Christ. Elle est un pédagogue qui nous amène à Jésus-Christ. Alléluia. Alors il lui dit, ok, tu fais la loi. Alors fais vraiment la loi. Vends tous tes biens, donne-les aux pauvres. Ah là, c'est plus dur. Le Seigneur lui a montré qu'il n'avait qu'une lecture superficielle de la loi. La loi devrait tous nous humilier, mais pas maintenant, Jésus-Christ, nous anéantir. Cette loi qui parfois fait que nous soyons fort déçus de nous-mêmes, nous pousse vers le Seigneur. Alléluia. Nous donne de crier vers lui et dire, Seigneur Jésus, viens sanctifier mon cœur. Merci, ta loi m'a éclairé. Ta loi m'a montré encore quelque chose de mauvais dans ma vie que je n'ignorais. Mais Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Alléluia. Vous savez, au tout début qu'on s'est converti, c'était tellement catastrophique que tous les jours on disait, Seigneur, pardon. Et Seigneur, change-moi. Mais je pense qu'on n'est peut-être pas si bien aujourd'hui. On a peut-être encore besoin d'être comme cela. Amen. Voilà donc pour le repos qui est en Jésus. Alors nous avons vraiment des difficultés à nous reposer. Vous voulez bien lire Ésaïe chapitre 30, s'il vous plaît, versets 15 à 18. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Voilà ce qui est dit. Ésaïe chapitre 30, verset 15. J'ai déjà lu, je pense, il y a quelques semaines ou quelques mois, ce passage, Ésaïe 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On le cite souvent d'une façon positive, mais regardez ce qui suit. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est terrible ça. Ils n'ont pas voulu rester tranquilles. L'homme de Dieu leur dit, calmez-vous, calmez-vous. Et eux, ils répondent, nous, on va galoper. On va prendre les chevaux, on va galoper. C'est vrai qu'on a vraiment cette difficulté à nous attendre au Seigneur en fait. Souvent, on pense qu'il ne va pas assez vite. Alors, on se débrouille. On s'agite. Dans ce contexte-là, bien, très souvent, Israël, plutôt que de s'attendre au Seigneur, ben, allait galoper dans les autres pays pour faire des alliances avec les Égyptiens, les Babyloniens et d'autres. Il galopait pour trouver du secours. Il galopait pour avoir des amis, des soutiens. Il galopait dans leur politique étrangère. Mais plutôt que de se tenir là devant Dieu et de dire, Seigneur, c'est de toi dont on a besoin. Mais ça fait peur de dépendre de Dieu. Ça fait vraiment peur. Parce que quand vous voyez les autres pays armés jusqu'aux dents, et que vous avez des petits soldats, vous n'avez pas beaucoup d'armes, vous êtes un petit pays, et que vous vous dites qu'ils vous entourent, mais au secours, au secours. Et que de fois, nous avons peur. Et la peur des hommes tend un piège. Nous ne devrions craindre que le Seigneur. Alléluia. Et respecter tout le monde, hein, pas être... voilà. Mais, voilà, dans le calme, la confiance, dans le repos, vous savez, Dieu est vivant. C'est son Église. Les gens du dehors qui sont perdus, il veut les sauver plus que nous. Parfois, quand on prie, on essaye de convaincre Dieu. C'est curieux. Mais il est plus convaincu que nous de sauver les âmes. Amen. Eh oui. Alors, tout est entre ses mains. Et attendons de le voir agir. On reprend dans Ecclésiaste chapitre 4. On va lire quelques passages. Psaume, Proverbe, Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 4, versets 4 à 6. Ecclésiaste 4, 4 à 6. Voilà ce qui est dit. Je vous attends. Vous avez trouvé ? Ecclésiaste, chapitre 4, verset 4. J'ai vu que tout travail, non, il est absolu hein, dans ce qu'il dit, hein, tout travail, j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains et mange sa propre chair. Donc là, il dit quand même, il ne faut pas être paresseux. Mais mieux vaut, voilà l'équilibre, mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. Amen. Alors, ce sage qui a observé le monde, la vie sous le soleil, en est arrivé à une conclusion que quand même, on est très jaloux. On vit dans la concurrence. Il n'y a pas que la société récente de consommation où il y a beaucoup plus de concurrence entre les entreprises, mais cette concurrence entre les entreprises n'est qu'un aboutissement de la concurrence individuelle quelque part. Nous nous concurrençons, nous nous regardons, nous nous observons, nous nous comparons et nous avons bien tort de vivre dans cette jalousie, dans cette concurrence. Et nous nous faisons beaucoup de mal. Nous essayons de prouver aux autres que nous ne sommes pas si nuls que ça. Parfois, nous essayons même de prouver que nous sommes meilleurs. Mais en réalité, bien souvent, nous essayons de nous prouver quelque chose à nous-mêmes. Mais vous savez, notre valeur ne réside pas dans ce qu'on sait faire. Elle réside dans le fait que Dieu nous aime. Et Dieu nous aime si on est le meilleur, mais Dieu nous aime si on est le pire. On n'a pas besoin de lui prouver qu'on vaut mieux qu'un autre pour qu'il nous aime. Alléluia. C'est tout simple ce que je vous dis, mais je crois vraiment cette réflexion de ce sage, beaucoup plus que nous ne le pensons. Nous ne sommes pas en repos parce que les moteurs de bien de nos actions ne sont pas purs. Mais il y a cette concurrence. En dehors, dans l'Église, nous sommes comme ça partout. Et il faut que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre qu'au fait, l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Alléluia. Avant tout, l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Merci Seigneur. Alors, pourquoi nous avons des difficultés à nous reposer? Eh bien, parce que plus que nous ne le pensons, nous essayons de montrer quelque chose plutôt que de faire ce que Dieu nous demande. Ça, c'est reposant. Amen. Se reposer, c'est dire, Seigneur, dans la vie, je voudrais ne pas avoir d'ambition, sauf celle de te plaire, de faire ce que tu me demandes, et de rester dans les limites que tu as prévues pour moi. Parce que vous savez, à chaque fois qu'on va au-delà des limites que Dieu a prévues pour nous, c'est là où c'est plus reposant. C'est là où ça devient fatigant. Vraiment fatigant. Parce qu'on n'est plus dans ce que Dieu veut pour nous. Alors je dirais maintenant, on va lire quelques passages sur cette pensée, laissez faire le Seigneur. On lit dans Exode chapitre 14, versets 10 à 14, s'il vous plaît. Exode 14, versets 10 à 14. C'est le passage de la mer Rouge. Exode 14, verset 10. Dieu a dit d'aller là, en ce lieu, mais en fait, ils étaient coincés dans une impasse. On ne comprend pas toujours dans nos vies. Parfois, vraiment, le Seigneur nous conduit et on se dit, mais tu m'as conduit dans une impasse. À gauche, c'est Pharaon et toute son armée, et à droite, c'est la mer. Je suis coincé. Tu m'as conduit, mais tu m'as sauvé, parce que le Seigneur les avait sauvés d'Égypte. Hein. À main forte, à bras étendus, c'était une évidence. Mais après, pour les amener dans une impasse. Ça ne vous est jamais arrivé en tant que chrétien ou chrétienne de vous dire, Seigneur, là, je suis dans une impasse. Je n'ai pas de sortie de secours. Est-ce que tu pourrais bien t'occuper de moi? Alors Exode chapitre 14, versets 10 à 14, il est dit ceci. Pharaon approchait, ce n'était pas très rassurant. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, mais pas vers le Seigneur. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que mourir au désert. J'élève la voix parce qu'ils ont crié ça à Moïse. Ils ne lui ont pas dit gentiment, ils lui ont crié. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous arrêtez. Dans ma région, on dirait arrêtez de braire et vous gardez le silence. Alléluia. Gardez le silence parce qu'ils étaient en train de crier. Vous comprenez? Ils criaient à Moïse, ah, au secours, Moïse. Mais on l'avait dit, c'était sûr. C'était la catastrophe assurée. Je ne sais pas si vous êtes optimiste ou pessimiste. Je ne sais pas si des fois, quand vous commencez quelque chose, vous dites, oh, passons, ça ne marchera pas. Ah, passons, ça n'ira pas. Ou alors, si vous êtes du genre à vous dire, quand vous passez un examen, oh, j'ai raté, hein. J'aurais même pas la moyenne. Comme ça, dans votre tête, vous vous dites, ben, si j'ai la moyenne, je serai content. Moi, il y a longtemps, je raisonnais un peu comme ça. Pour me protéger, j'imaginais le pire. En me disant, bah, si j'imagine le pire, je pourrais être que surpris en bien. Alors, on raisonne, hein, des fois, on a des drôles de raisonnements. Alors, là, ils disent, bah, mais on te l'avait dit, Moïse, mais on te l'avait dit. Mais depuis l'Égypte, on te l'avait dit. Ça finirait mal, cette affaire-là. Et Moïse dit, mais restez en place. Courez pas. Arrêtez, tranquille. Regardez, c'est le Seigneur qui va agir. Gardez le silence. Ces dernières semaines, malgré dans mes lectures personnelles, où que ce soit dans la Bible, à plusieurs reprises, j'ai lu des passages où il est question du silence. Mais ce n'est pas le silence de la complaisance, ce n'est pas le silence de la lâcheté, parce qu'il y a des mauvais silences. C'est le silence de la foi. Amen. C'est à un moment donné se dire, je vais arrêter de parler, c'est le Seigneur qui va agir. Je vais arrêter de faire, c'est le Seigneur qui va agir. Alléluia. Vous savez, on est plein de bonnes intentions. Mais souvent on gêne le Seigneur. Mais c'est dur, hein. Depuis qu'on est bébé, depuis qu'on est enfant, à la cour de récréation, on bouscule l'autre. Voilà, il faut qu'on se débrouille. C'est dur de lâcher les rênes. C'est dur de laisser le Seigneur agir. Mais c'est tellement mieux. Alléluia. Alors, on ne lira pas tous les passages, on lira pour cette pensée, laisser faire le Seigneur, ce passage bien connu de 2 Samuel, chapitre 5, s'il vous plaît. Au verset, je pense, 22, 2 Samuel, chapitre 5. Il est bien connu, mais utile à répéter. 2 Samuel, chapitre 5, verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors dépêche-toi. car c'est l'Éternel, c'est les pas de l'Éternel, c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Amen. Amen. Voyez ici, c'est magnifique ce passage. David a eu plus d'une victoire à son avantage, mais il consulte Dieu quand même. Ça, c'est difficile, vous savez, avec les années. Avec les années, on devient des hommes, des femmes, on peut parfois des chrétiens d'expérience, et on ne se rend plus compte, mais on ne dépend plus tant du Seigneur. Et lui, bien qu'il était un guerrier aguerri, que Dieu était avec lui, ce qui a caractérisé David, c'est qu'il restait humble, il consultait le Seigneur. Il y a une fois dans sa vie où il ne l'a pas trop fait, et il l'a payé très cher. Mais il consultait. Et là, quelle leçon! En gros, ce qu'il lui dit, c'est « Laisse passer le Seigneur devant toi. Tu écoutes. Ben, les Philistins sont là, il faut se dépêcher, c'est du temps perdu. Plus on va attendre, plus ils auront l'avantage. Non, non, tu vas aller là-bas, et puis tu écoutes. Et quand tu entends que je passe devant toi, ben là, tu peux y aller. » Mais quelle leçon! Si nous pouvions laisser le Seigneur passer devant nous. Amen. Nous chantons parfois à toi nos cœurs, nos vies. Nous marchons tous à ta suite. J'aime beaucoup ce petit cœur. Parce que de fois, nous marchons, mais prenons-nous le temps de dire, Seigneur, passe devant moi. Amen. Ce n'est pas que de la politesse, hein, au restaurant, on nous a appris, on ouvre la porte et on fait passer son épouse, je ne sais pas si on le fait toujours. Moi, j'avais un pasteur, dans ceux qui m'ont formé, il faisait toujours ça, parce qu'à l'époque, il n'avait pas une voiture avec la centralisation, etc. Il faisait le tour de sa voiture, il ouvrait la porte du passager, il ouvrait la porte, la personne, ça y est, il a fermé. Bon, c'est super, moi je ne dis pas que j'ai fait toujours ça, loin de là, mais il y a de la politesse comme ça. Mais si, plus que de la politesse. Nous pouvions dire, Seigneur, passe devant moi. Amen. Passe devant moi. C'est important ça. De laisser le Seigneur nous diriger, nous conduire. On termine avec le psaume 3. Il est court. Psaume 3. Il est court, mais alors, c'est exceptionnel. Faire passer le Seigneur devant nous, c'est par exemple, si vous avez des problèmes à votre travail, ne vous débrouillez pas tout seul. Mais peut-être avant d'aller au travail, vous pouvez dire, Seigneur, je voudrais que tu ailles au travail avant moi. Et que quand j'arrive, tu y sois déjà. Gloire à Dieu. Passe devant moi. Précède-moi. C'est comme aussi dans nos réunions, Seigneur. J'aimerais bien que tu sois même avant notre frère Michel, avant même lui, que tu sois déjà là. Ah non, non. Pourtant, vous m'avez dit qu'il était déjà là quand vous arriviez. Qu'il soit avant nous et que nous le rejoignions. Dieu soit béni. Amen. Alors, psaume 3, psaume de David, à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. C'est fichu, pause. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de sa montagne sainte. Alors regardez le repos qui en découle. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel, il est là, mon réveil. Il est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Alors, pourquoi c'est fort ce psaume ? C'est le verset premier, quand il a fui Absalom. Quand même, Ça faisait des décennies qu'il était un bon roi. Et il a un fils qui lui fait un coup dans le dos, qui lui fait à l'envers, comme disent les jeunes parfois. Et il arrive à remonter une bonne partie du peuple d'Israël et son père, qui était quand même déjà vieux là, David, il doit s'enfuir comme il peut, sauf qu'il peut. Et là, il compose ce psaume. Et le verset 4, il dit, « Tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. » Mais c'est fort, parce qu'il veut dire, « Ma gloire, c'est pas mon trône que je dois quitter parce que mon fils, il me pourchasse. C'est pas ça qui est important, c'est toi, ma gloire. Mon bouclier, ce ne sont pas les murailles de Jérusalem que je dois fuir. » Sans protection, affaibli, vieux, pourchassé. Non, c'est toi mon rempart. C'est toi Jérusalem pour moi. C'est toi ma gloire, ma royauté. Pas d'importance, ma foi. Le plus important dans notre vie, bien-aimée, c'est notre foi. Amen. Et notre gloire, c'est de connaître Dieu. C'est de croire en Jésus-Christ. On n'a pas d'autre gloire. Alléluia. Alors vous avez peut-être des problèmes avec vos enfants, avec, dans votre famille. Vous en avez peut-être. Et ça, ça fait partie des inquiétudes. Vous vous inquiétez peut-être beaucoup pour vos enfants. Alors, où est le temps où les enfants partaient? Et puis maintenant, portable, t'es où? Ça fait 5 minutes que tu dois être là. T'es où? Voilà. Vous avez vu ce qu'il a vécu, lui? C'est terrible quand même. Un fils qui se révolte contre lui et le met dehors du palais royal et veut le tuer. Et il fera tout en envoyant une armée pour le tuer. C'est terrible quand même ce qui est arrivé à David. Et dans ces moments-là, il a su faire passer sa foi et le Seigneur surtout avant son enfant. Alors, un petit conseil pour terminer. Mon frère, ma sœur, pour que tu aies du repos, ne te fais plus de mal avec tes enfants. Le Seigneur s'en occupera. Laisse-le passer devant toi. Laisse-le faire. Plus tu vas parler, pire ça va faire. Ils s'éloigneront de toi. Mais il y a même des gens du monde qui disent qu'il faut laisser du temps au temps. Et il y a du vrai dans ça quand même. Alors, voilà, on n'est pas les premiers à beaucoup souffrir dans tous les domaines de notre vie, avec nos enfants, avec notre famille. On n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Mais ce qui compte, c'est de ne pas perdre notre paix, de rester en repos pour servir le Seigneur. À son nom soit la gloire, que sa parole puisse produire ce qu'elle a dit. On prie quelques secondes. Oui, Seigneur, je t'en prie, permets-nous de vivre davantage dans ce repos en Jésus. Parfois, nous nous couchons et nous avons du mal à nous endormir et nous pensons, plutôt que de vivre dans une confiance plus sereine, Seigneur, dans nos vies, nous avons tellement parfois de ronces qui pourraient étouffer ta parole. Et nous te demandons pardon pour ce manque de confiance. Mais ta parole, elle produit ce qu'elle dit. Merci pour ce temps de repos, ce temps de paix dans ta maison. Et je te prie que la paix s'établisse, s'élargisse. Gagne tous nos cœurs. Alléluia. Et que nos maisons puissent vivre dans ce repos favorable à la consécration. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu.